À ce stade, j'avais déjà participé à des débats publics dans 8 États pour exposer la philosophie générale de la réforme du système de santé, mais aussi expliquer en détail ce qu'elle pourrait signifier. Pendant une émission télévisée en direct, j'avais répondu aux questions d'adhérents de l'AARP, le groupe de défense des intérêts des personnes retraitées, qui appelait pour m'interroger sur divers sujets, des insuffisances du régime Medicare aux directives anticipées. Tard le soir, dans la salle des traités, je me penchais sur les mémos et les feuilles de calcul qui arrivaient sur mon bureau à flot continu, afin d'être sûr de maîtriser toutes les subtilités de la mutualisation des risques et des plafonds de réassurance. Si le flot de fausses informations qui circulait sur les ondes pouvait parfois susciter mon abattement ou ma colère, j'étais reconnaissant envers mon équipe de sa pugnacité et de son courage inébranlable, même quand la bataille devenait rude et alors que la victoire demeurait plus que douteuse. Cette ténacité animait l'ensemble du staff de la Maison-Blanche. Un jour, Denis McDonough avait distribué à tout le monde des autocollants sur lesquels on pouvait lire « Non au cynisme ». Ce mot d'ordre est devenu pour nous un article de foi. Conscient que nous devions tenter un gros coup pour relancer le débat, Axe a suggéré que j'intervienne à la télé en prime time devant le Congrès réuni en séance plénière. C'était un pari risqué, une démarche à laquelle les présidents n'avaient recouru que 2 fois au cours des 16 dernières années, mais cela m'offrirait l'opportunité de m'adresser directement à des millions de gens. Je lui ai demandé sur quel sujet avaient porté les 2 interventions en question. La plus récente, c'est quand Bush a déclaré « la guerre contre le terrorisme » après le 11 septembre. Et l'autre ? Bill Clinton sur la réforme du système de santé. J'ai ri. Bon, eh bien, ça n'avait pas trop mal marché, pas vrai ? En dépit de ce précédent de mauvais augure, nous avons décidé que ça valait le coup de tenter notre chance. 2 jours avant le Labor Day, début septembre, Michel et moi sommes montés à bord de la Bête pour nous rendre au Capitole, où nous avons pénétré par l'entrée est, puis nous avons marché jusqu'aux portes de l'hémicycle, empruntant le même chemin que 7 mois auparavant. L'annonce du sergent d'armes, les lumières, les caméras, les applaudissements, les poignées de main en descendant la travée centrale. Nous rejouions la scène du mois de février, du moins en apparence. Mais cette fois, l'atmosphère était différente. Les sourires semblaient un peu forcés et on sentait planer la tension et le doute. À moins que ce ne fût ma propre humeur qui était différente. Si j'avais éprouvé une quelconque exaltation au lendemain de ma prise de fonction, l'impression d'un triomphe personnel, il n'en restait désormais plus rien. Et c'était un sentiment plus grave qui m'habitait à présent. Une détermination à aller jusqu'au bout. Pendant 1 heure ce soir-là, j'ai expliqué dans les termes les plus clairs possibles ce que notre projet de réforme signifierait pour les familles qui nous regardaient. La nouvelle loi permettrait à ceux qui en avaient besoin de souscrire une assurance, mais elle protégerait également ceux qui en bénéficiaient déjà. Elle ferait barrage aux pratiques discriminatoires des compagnies d'assurance qui pénalisaient les patients ayant des antécédents médicaux, ainsi qu'au plafonnement à vie des remboursements qui accablaient nombre de foyers américains comme celui de Laura Klitschka. J'ai décrit en détail les mécanismes grâce auxquels les personnes âgées auraient les moyens de se procurer certains médicaments dont leur survie dépendait et ceux qui mettraient les assureurs dans l'obligation de prendre en charge sans frais supplémentaires les examens de routine et les soins préventifs. J'ai tenté de démontrer que les craintes liées à une confiscation du système de santé par le gouvernement et au jury de la mort étaient absurdes, que cette législation n'alourdirait pas le déficit d'un centime, et enfin que cette réforme était nécessaire et qu'elle était nécessaire maintenant. Quelques jours plus tôt, j'avais reçu une lettre de Ted Kennedy. Il l'avait rédigée au mois de mai, mais il avait donné pour instruction à Vicky d'attendre après sa mort pour me la transmettre. C'était une lettre d'adieu de 2 pages, dans laquelle il me remerciait d'avoir repris le flambeau de la réforme du système de santé, qui était la grande affaire inachevée de notre société, à ses yeux, et la cause à laquelle il avait voué toute son existence. Il quitterait ce monde, ajoutait-il, apaisé à l'idée que le projet auquel il avait consacré des années de travail allait enfin, sous ma supervision, voir le jour. J'ai donc conclu mon discours ce soir-là en citant la lettre de Teddy, dans l'espoir que ces mots galvaniseraient la nation comme ils m'avaient galvanisé. « La question à laquelle nous sommes confrontés, avait-il écrit, est avant tout une question morale. Ce ne sont pas seulement les détails particuliers d'une mesure politique qui sont en jeu, mais les principes fondamentaux de la justice sociale et l'essence même de notre pays. » À en croire les sondages, mon intervention devant le Congrès a provoqué un regain de soutien pour la réforme dans l'opinion publique, du moins pour un temps. Mais surtout, d'un point de vue plus pragmatique, elle a, semble-t-il, insufflé une détermination nouvelle aux démocrates les plus timorés. En revanche, elle n'a pas fait changer d'avis un seul républicain. Nous en avons d'ailleurs eu très vite la preuve. Moins d'une demi-heure après le début de mon discours, alors que j'étais en train de démolir l'argument fallacieux selon lequel le projet de loi allait octroyer une couverture maladie aux immigrés en situation illégale, un député relativement obscur du nom de Joe Wilson, représentant de la Caroline du Sud, s'est penché sur son siège, m'a pointé du doigt et s'est écrié le visage cramoisi de colère « Vous mentez !» Pendant une fraction de seconde, un silence stupéfait s'est abattu sur l'assemblée. J'ai tourné la tête pour essayer de repérer le perturbateur dans la salle et j'ai vu que la présidente Pelosi et Joe Biden faisaient de même, Nancy affichant une expression outrée tandis que Joe secouait la tête d'un air consterné. J'étais assez tenté de descendre de mon perchoir pour aller coller mon poing dans la figure du type, mais j'ai simplement répondu « Non, ce n'est pas vrai ». Puis j'ai repris mon discours, tandis que les démocrates faisaient pleuvoir sur Wilson un déluge de huées. De mémoire récente, jamais un tel incident ne s'était produit lors d'une allocution présidentielle devant le Congrès réuni. Les critiques ne se sont pas fait attendre, côté républicain comme démocrate, et le lendemain matin, Wilson a présenté des excuses publiques pour ce manquement au protocole, puis il a appelé Ram pour lui demander de me transmettre personnellement l'expression de ses regrets sincères. J'ai minimisé l'affaire, confié à un journaliste que j'appréciais les excuses de Wilson et que j'étais le premier à reconnaître qu'il nous arrivait à tous de commettre des erreurs. Toutefois, je n'ai pas manqué de remarquer certains articles faisant état d'un pic soudain des contributions en ligne à la campagne de Wilson pour sa réélection à la Chambre des représentants dans la semaine qui a suivi son coup d'éclat. Apparemment, aux yeux de nombreux électeurs républicains, c'était un héros qui avait osé dire ses quatre vérités au pouvoir en place. C'était le signe que le Tea Party et ses alliés dans les médias n'avaient pas seulement réussi à diaboliser le projet de réforme du système de santé. Ils m'avaient diabolisé moi aussi, à titre personnel, et transmis ainsi un message clair à tous les élus républicains. Lorsqu'il s'agissait de s'opposer à mon gouvernement, il n'y avait plus de règles qui tiennent. Bien que j'ai passé une partie de mon enfance à Hawaï, je n'ai jamais appris à faire de la voile. C'était un loisir dont ma famille n'avait pas les moyens. Et pourtant, pendant les 3 mois et demi suivants, j'ai éprouvé la même chose, imaginais-je, que les marins en haute mer qui viennent d'essuyer une terrible tempête. Le travail demeurait ardu, parfois monotone, et d'autant plus ingrat qu'il nous fallait écoper notre esquif et réparer quelques avaries. Maintenir le cap et l'allure en dépit des caprices du vent et des courants exigeait de la patience, de l'habileté et de l'attention. Mais pendant quelque temps, soulagés d'avoir échappé au naufrage, nous avons pu continuer de tracer notre route au jour le jour, portés par une foi renouvelée en nos chances d'atteindre notre destination. Première satisfaction, après des mois d'atermoiement, Baucus a enfin soumis au débat une version du projet de loi devant la commission financière du Sénat. Son texte, calqué sur le modèle du Massachusetts dont nous nous étions tous inspirés, était un peu plus avare que nous ne l'aurions souhaité sur le chapitre des subventions accordées aux personnes non assurées, et nous avons insisté pour qu'il remplace une taxe appliquée à toutes les polices d'assurance employeurs par une imposition plus élevée pour les riches. Mais il faut rendre cette justice aux membres de la commission, les délibérations se sont déroulées de manière généralement fructueuse et sans provoquer d'esclandre à la tribune. Au terme de 3 semaines de travail acharné, le texte a été ratifié par la commission par 14 voix contre 9. Olympia Snow a même décidé de voter pour, apportant ainsi la seule voix républicaine en notre faveur. Nancy Pelosi, en dépit d'une opposition républicaine farouche et unanime, a ensuite manœuvré pour soumettre le plus rapidement possible à l'examen de la Chambre des représentants une version uniformisée du projet de loi, fixant le vote au 7 novembre 2009. Le texte était déjà prêt depuis un moment en réalité, mais Nancy n'avait pas voulu le soumettre et forcer les représentants à s'engager sur une décision politique difficile avant d'être sûre et certaine qu'il ne soit pas retoqué au Sénat. Si nous arrivions à faire en sorte que le Sénat ratifie de son côté une version similaire du projet avant la trêve de Noël, nous pensions pouvoir consacrer le mois de janvier à d'ultimes négociations pour harmoniser les deux versions, celle de la Chambre et celle du Sénat, puis soumettre un texte unique et définitif à l'approbation des deux assemblées. Et avec un peu de chance, je n'aurai plus qu'à y apposer ma signature au plus tard en février. Mais cette dernière hypothèse était loin d'être acquise, et tout allait dépendre en grande partie de mon vieil ami Harry Reid. Fidèle à sa vision généralement pessimiste de la nature humaine, le chef de la majorité démocrate au Sénat partait du principe qu'on ne pourrait plus compter sur le soutien d'Olympia Snow une fois que la version finale du projet de loi serait soumise au vote. « Dès que McConnell viendra lui resserrer la vis, » m'a-t-il dit d'un ton détaché, « elle s'aplatira comme une carpette. » Pour parer à toute tentative d'obstruction, Harry ne pouvait pas se permettre de perdre une seule des 60 voix qui composaient son groupe parlementaire. Et comme au moment du vote sur le Recovery Act, cela donnait à chacun de ses sénateurs un moyen de pression énorme pour exiger des modifications sur le texte, si triviale ou absurde soit-elle. Cette situation n'était guère propice à des discussions d'une grande noblesse politique, ce qui ne dérangeait pas le moins du monde Harry, qui n'avait pas son pareil pour manœuvrer, négocier et faire pression. Pendant les 6 semaines suivantes, le projet de loi introduit au Sénat a commencé à faire l'objet de fastidieux débats sur des questions de procédure, mais la seule action qui importait réellement était celle qui se déroulait derrière les portes closes du bureau de Harry, où il recevait un par un les éléments récalcitrants pour tenter d'obtenir leur soutien. Certains réclamaient, en contrepartie, des financements pour tel ou tel projet politique personnel bien intentionné, mais d'une utilité toute marginale. Plusieurs sénateurs, parmi les plus à gauche, qui d'habitude ne rataient pas une occasion de crier haro sur les profits exorbitants réalisés par les géants de l'industrie pharmaceutique et les compagnies d'assurance privées, ne voyaient tout à coup rien à redire aux profits non moins exorbitants réalisés par les fabricants de matériel médical, dont les usines étaient installées dans leur état, et poussaient Harry à revoir à la baisse la taxation envisagée pour ce secteur par le projet de loi. La sénatrice Marie Landrieux et le sénateur Ben Nelson étaient prêts à voter pour la réforme à condition que des milliards de dollars supplémentaires soient octroyés spécifiquement à la Louisiane et au Nebraska dans le cadre du régime Medicaid, des concessions que les républicains, non sans un certain humour, ont surnommées respectivement l'achat de la Louisiane, par allusion à la cession territoriale consentie par la France aux États-Unis en 1803, et la ristourne des effeuilleurs de maïs, d'après le surnom des habitants du Nebraska. Mais, à la guerre comme à la guerre, Harry était prêt à jouer le jeu. Un jeu auquel il se laissait d'ailleurs un peu trop prendre, parfois. Il était irréprochable quand il s'agissait de tenir mon équipe au courant de ces discussions, donnant à Phil ou à Nancy Ann la possibilité de contrecarrer les changements législatifs susceptibles de nuire aux dispositions fondamentales de la réforme, mais il lui arrivait de mettre les pieds dans le plat afin de conclure un arrangement auquel il tenait, et je devais alors lui passer un coup de fil pour réfréner ses ardeurs. En général, il finissait par faire marche arrière après avoir écouté mes objections, non sans grommeler cependant, se demandant comment diable il allait pouvoir faire passer ce fichu projet de loi s'il était obligé de faire les choses à ma façon. « Monsieur le Président, m'a-t-il dit un jour, vous en savez bien plus long que moi sur la politique de santé publique, mais moi, je connais le Sénat, d'accord ?» Comparé aux tactiques peu scrupuleuses, électoralisme, clientélisme et autres échanges de bons procédés, auxquels avaient traditionnellement recouru les chefs de file du Sénat pour faire passer certains grands projets législatifs controversés, tels que la loi sur les droits civiques qui avait mis fin à la ségrégation en 1964, la loi sur la réforme fiscale initiée par Ronald Reagan en 1986, ou encore le New Deal dans les années 1930, les méthodes de Harry étaient plutôt bénignes. Mais ces réformes remontaient à une époque où les tractations politiques ne faisaient pas la une des journaux, avant l'avènement de l'info en continu. Dans notre cas, la lente progression du projet de loi dans les coulisses du Sénat se doublait d'un véritable cauchemar médiatique. Chaque fois que Harry changeait une virgule au texte afin de complaire à un sénateur, les journalistes se fendaient d'un nouvel article sur nos petits arrangements d'arrière-boutique. Le regain de popularité à l'égard de la réforme qu'avait pu provoquer mon discours au Congrès s'est vite évaporé. Et la situation a encore empiré lorsque Harry a décidé, avec ma bénédiction, de rayer du projet de loi une disposition appelée l'option publique. Dès le tout début des discussions autour du système de santé, les éminences grises de la gauche nous avaient poussés à modifier le modèle du Massachusetts en donnant aux consommateurs le choix d'acheter leur couverture maladie sur la bourse en ligne, non seulement à des prestataires privés tels qu'Aetna ou Blue Cross Blue Shield, mais aussi à un tout nouvel organisme contrôlé et géré par l'État. Sans surprise, les compagnies d'assurance s'étaient dressées contre l'idée d'une telle option publique, au prétexte qu'elles ne seraient pas en mesure de rester compétitives face à une police d'assurance d'État par définition soustraite à l'obligation de dégager une marge de profit. Bien entendu, pour les défenseurs de l'option publique, c'était précisément tout l'intérêt. En mettant en lumière la rentabilité d'une assurance gérée par le gouvernement, et par la même occasion, les dépenses astronomiques et l'immoralité foncière inhérente au marché de l'assurance privée, ils avaient bon espoir que l'option publique ouvre la voie à un futur régime unique et universel de remboursement des soins. L'idée était astucieuse et suffisamment attrayante pour que Nancy Pelosi ait réussi à la faire inscrire dans le projet de loi ratifié par la Chambre des représentants. Mais Mais du côté du Sénat, nous étions très loin de pouvoir recueillir 60 voix en faveur de l'option publique. Une version édulcorée de cette disposition, figurant dans le texte issu de la Commission sur la santé et l'éducation, obligeait tout organisme d'assurance géré par l'État à aligner ses tarifs sur ceux des assureurs privés. Mais cela aurait évidemment remis en question tout l'intérêt d'une option publique. Mon équipe et moi pensions qu'un compromis était possible, qui consisterait à proposer l'option publique uniquement dans les zones du territoire américain où très peu d'assureurs privés étaient implantés, où la question de la compétitivité se poserait donc dans une moindre mesure et où la présence d'un organisme public pourrait contribuer à faire diminuer le prix moyen des cotisations. Toutefois, malgré cette concession, la pilule restait trop difficile à avaler pour les membres les plus conservateurs du groupe démocrate, notamment le sénateur du Connecticut, Joe Lieberman, qui a déclaré fin novembre, à la veille de Thanksgiving, qu'en aucun cas il ne donnerait sa voix à un projet de loi dans lequel figurerait l'option publique. Dès que le bruit a commencé à se répandre que nous avions renoncé à inclure l'option publique dans le texte présenté au Sénat, les militants de l'aile gauche du Parti démocrate se sont déchaînés. Howard Dean, l'ancien gouverneur du Vermont et candidat à l'élection présidentielle en 2004, voyait dans ce renoncement rien moins que l'effondrement de la réforme du système de santé au Sénat des États-Unis. Ils étaient tout particulièrement scandalisés à l'idée que Harry et moi ayons accédé, selon eux, au desiderata de Joe Lieberman, lequel n'était pas en odeur de sainteté auprès de l'aile gauche du parti depuis la défaite aux primaires démocrates de 2006 que lui avait valu son soutien à l'invasion de l'Irak et ses positions va-t-en-guerre de manière générale, et qui avait dû par la suite se présenter à sa réélection au Sénat sous étiquette indépendante. Ce n'était pas la première fois que je mettais de côté mon ressentiment personnel à l'égard de Lieberman au nom du pragmatisme. Même s'il avait apporté son soutien officiel à son copain John McCain pendant la campagne présidentielle, Harry et moi avions fait taire les voix qui s'étaient élevées pour demander qu'il soit démis de ses diverses fonctions au sein des commissions sénatoriales, car nous ne pouvions pas prendre le risque de le voir claquer la porte du groupe démocrate et de perdre ainsi un vote qui nous était acquis. Nous avions eu raison sur ce point. Lieberman avait systématiquement soutenu chacune de mes propositions sur le front de la politique intérieure. Mais en laissant paraître qu'il avait le pouvoir de dicter les termes de la réforme du système de santé, nous avions contribué à renforcer l'impression, dans les rangs démocrates, que je traitais mes ennemis mieux que mes alliés et que je tournais peu à peu le dos aux progressistes qui m'avaient fait élire à la présidence. Je trouvais tout ce brouhaha exaspérant. « Mais qu'est-ce qui leur pose problème à tous ces gens ?» râlais-je devant mon staff. « Ils ne comprennent donc pas que nous avons besoin de ces 60 voix. Qu'est-ce qu'ils veulent à la fin ? Que je dise aux 30 millions de personnes qui n'ont pas les moyens de s'assurer qu'elles vont devoir attendre encore 10 ans parce qu'on n'arrive pas à leur donner une option publique ?» Les critiques ne sont jamais aussi déplaisantes que lorsqu'elles viennent de votre propre camp. Mais ce n'était pas le seul motif de mon énervement. Ces dissensions étaient également lourdes de conséquences pour les démocrates à court terme. Elles semaient la confusion chez nos militants, qui pour la plupart n'avaient pas la moindre idée de ce qu'était une option publique, et la division au sein de notre groupe parlementaire, ce qui nous compliquait encore un peu plus la tâche, consistant à rassembler les voix nécessaires pour porter le projet de loi de réforme jusqu'à la ligne d'arrivée. Par ailleurs, elle avait tendance à faire oublier que toutes les grandes avancées sociales au cours de l'histoire américaine, notamment notre système de protection des plus défavorisés et le régime Medicare, avaient été initiées sous une forme parcellaire avant de s'étoffer petit à petit au fil du temps. En déplorant d'avance le possible fiasco auquel risquait de tourner ce qui, pour l'heure, promettait encore de représenter une victoire monumentale, quoique imparfaite, ceux qui, dans notre propre camp, critiquaient le projet de réforme, contribuaient à la démoralisation potentielle des électeurs démocrates sur le long terme. Le fameux syndrome « à quoi bon voter puisque rien ne change jamais de toute façon ?» ce qui ne nous aiderait pas à gagner d'autres élections et à continuer de promouvoir une législation progressiste dans les années à venir. Ce n'était pas un hasard, ai-je dit à Valérie, si les Républicains avaient tendance à faire exactement l'inverse. Si Ronald Reagan, par exemple, quand bien même il avait été à l'origine d'une augmentation colossale du budget fédéral, du déficit fédéral et du nombre des fonctionnaires de l'État fédéral, restait aujourd'hui encore idolâtré par les fidèles du GOP, comme le gars qui avait réussi à réduire le champ d'action du gouvernement fédéral. Les Républicains avaient compris une chose. En politique, les histoires qu'on raconte ont souvent autant de poids que les actes. Nous n'avons officiellement exprimé aucune de ces réflexions, même si, jusqu'à la fin de mes deux mandats présidentiels, le terme « option publique » resterait un mot de code bien pratique à la Maison-Blanche chaque fois qu'un groupe d'intérêts démocrates venait se plaindre parce que nous n'arrivions pas à défier les lois de la gravité et à satisfaire leurs moindres réclamations. Nous avons fait de notre mieux, au contraire, pour calmer le jeu, en rappelant à nos partisans dépités que nous aurions amplement le temps d'affiner la législation une fois que les projets validés par le Sénat et la Chambre seraient fondus en un seul et même texte de loi. Harry a continué à faire son Harry, notamment en prolongeant la durée des débats au Sénat pendant plusieurs semaines après la date prévue de l'ajournement des travaux parlementaires pour les vacances de fin d'année. Comme il l'avait prédit, Olympia Snow a bravé une tempête de neige pour faire un saut au bureau ovale et nous annoncer en personne qu'elle ne nous donnerait pas sa voix. La faute en incombait à Harry, qui voulait précipiter le processus, nous a-t-elle affirmé, même s'il se murmurait ça et là que McConnell avait menacé de la démettre de son poste à la commission des petites entreprises si jamais elle votait en faveur du projet de loi. En fin de compte, rien de tout cela n'a eu la moindre importance. La veille de Noël, après 24 jours de débat, alors que les rues quasi désertes de Washington étaient recouvertes d'un épais manteau de neige, le Sénat a ratifié son projet de loi sur la réforme du système de santé, baptisé « Loi sur la protection des patients et l'accès aux soins ». Patient Protection and Affordable Care Act. Par très exactement 60 voix. C'était la première fois qu'un vote avait lieu au Sénat la veille de Noël, depuis 1895. Quelques heures plus tard, je me suis confortablement installé dans mon fauteuil à bord d'Air Force One, en écoutant Michel et les filles commenter la façon remarquable dont Beau s'était habitué au voyage en avion. Et nous avons bientôt décollé pour Hawaï, où nous passerions les vacances de fin d'année. Je commençais tout juste à me détendre. « Nous allions réussir », me disais-je. Nous n'étions pas encore arrivés à bon port, mais grâce à mon équipe, grâce à Nancy, à Harry et à la poignée d'élus démocrates qui avaient eu le courage de nous accorder leur voix, la terre était enfin en vue. J'étais loin de me douter que notre navire allait bientôt se fracasser contre les rochers.